France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, à la Cité internationale de la langue française qui a ouvert ses portes en novembre dernier. Alors c'est ici que les éditions Gallimard viennent présenter leur nouvelle Pléiade, la 671e, eh oui, consacrée justement à la Pléiade, ce groupe de poètes du XVIe siècle mené notamment par Ronsard et Dubellé. Alors avant de suivre la présentation de ce nouvel objet littéraire, allons tout de suite rencontrer le directeur de la Cité de la langue française.
Alors je suis Paul Rondin, je suis le directeur de la Cité internationale de la langue française qui se trouve dans le château de Villers-Cotterêts, ancien château de François Ier, voulu par François Ier, où ce dernier a d'ailleurs signé la fameuse ordonnance qui fait du français la langue du royaume à l'époque et aujourd'hui la langue de notre nation.
Justement, cette ordonnance de Villers-Cotterêts qui a été signée en 1539, est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qu'elle va changer, cette ordonnance ?
Alors c'est très important en réalité, parce que François Ier, comme souvent, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup, est un précurseur. Et à ce titre, il invente finalement la langue d'égalité en disant il n'est plus possible qu'un mauvais latin soit seulement maîtrisé par les gouvernants et les clercs, et qui décident de tout pour les habitants du royaume. Donc je veux une langue qui soit une langue d'égalité pour l'administration et la justice.
Quelle est la vocation de cette Cité de la langue française ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il s'agit d'un musée ?
C'est pas du tout un musée. C'est pas du tout un conservatoire de la langue, c'est au contraire un endroit où on montre que le français va bien, qu'il va bien parce qu'il est pluriel et que la francophonie va très très bien aussi, et qu'une langue est extrêmement vivante parce qu'elle change, parce qu'elle est augmentée en permanence, parce qu'elle est, tordue, elle est plastique, on joue avec, et c'est vraiment ça. C'est un endroit, si vous voulez, plus que d'histoire presque, c'est vraiment un endroit de monstration de ce qu'est la langue presque changeante tous les jours ou toutes les heures.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on y voit dans cette Cité de la langue française ?
Alors ce qui est assez dingue, c'est qu'on peut visiter l'immatériel, puisqu'on peut visiter une langue. Il y a le cœur du projet qui est l'attraction principale, comme disent nos copains canadiens, c'est le parcours permanent sur la langue française, et en fait qui est un parcours qui montre d'une part les créateurs qui ont transformé la langue. Alors les créateurs c'est tous, hein, c'est évidemment les grands écrivains comme Beckett ou Cao Tiang, mais c'est aussi les rappeurs, les rappeuses, les humoristes, les linguistes évidemment, qui travaillent sur la norme et l'usage, et c'est la démonstration que, une fois encore, la langue est particulièrement vivante parce qu'elle se compose, se décompose, se recompose en permanence, et ceci à une échelle monde.
Alors, allons à présent vers l'auditorium de la Cité de la langue où Antoine Gallimard est en train de présenter ce fameux nouveau volume de la Pléiade accompagné de Mireille Huchon.
Et je veux dire que bon, la Pléiade a toujours été pour moi la collection, non pas de références culturelles, mais de références tout court. Ce n'est pas intimidant la Pléiade, c'est simplement tellement impressionnant de ce que la Pléiade peut avoir comme note, comme appareil critique, comme recherche à tout niveau, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas jamais quitter la Pléiade. Alors, vous avez fait un pas mal de le dire, mais je trouve remarquable pour cette édition, justement en ayant l'art de mélanger des textes d'auteurs vivants, des textes posthumes aussi, et puis la poésie, du récit. Et c'est comme une tapisserie, je veux dire, du Moyen-Âge, on peut tout regarder sans avoir le sentiment d'être écrasé justement par la culture. C'est ce que j'aime en Pléiade. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment privilégié d'être là, en petit comité, dans ce lieu extraordinaire, à l'occasion de la publication, je le rappelle, du 671e volume de cette collection, donc nous avons décidé de consacrer avec Hugues au poète de la Pléiade. Ce qui me semble clair, c'est que cette Pléiade de la Pléiade a vraiment sa place, et on se demande pourquoi elle n'est pas arrivée plus tôt.
Mireille Huchon, je suis professeure émérite à la Sorbonne et auteure d'ouvrages dans la Pléiade, Rabelais, Louise Labbé et maintenant la Pléiade.
Pourquoi, selon vous, cette anthologie consacrée au groupe de la Pléiade est une publication importante ?
Ça me paraît important que cette Pléiade sorte d'abord en Pléiade, vous imaginez. C'est la première fois qu'on a la Pléiade en Pléiade et qu'on peut lire aussi certains des textes de ces auteurs dont les plus connus, bien sûr, sont Dubellay et Ronsard. Mais il y a parmi les autres auteurs, des auteurs tels que Guillaume Desautels, Rémi Bellot, La Péruse, qui sont ici bien présents. Et ce qu'il y a, c'est une sorte de chronique de l'émergence de la Pléiade, c'est-à-dire de leurs premiers textes. On a les premiers vers de Ronsard, les premiers vers de Dubellay, les premiers vers de Baïf, donc une sorte de cette jeunesse un peu de ces poètes, sous le règne d'Henri II, c'est-à-dire de 1547 à 1559. J'ai tenu à ce que les préfaces, des textes qu'ils s'envoient les uns et les autres permettent de reconstituer une sorte d'histoire, et plutôt de chronique même, de ces années. Et, je crois que c'est véritablement clé de l'histoire poétique, enfin, que ces poètes.
Ma mignonne, si c'était mignonne, que je vous eusse offensé.
Eh bien, je suis Hugues Pradier, je suis le directeur éditorial de la Pléiade depuis d'assez nombreuses années maintenant.
Et pourquoi Gallimard publie aujourd'hui ce volume consacré aux poètes de la Pléiade ?
Alors, au-delà du jeu de mots, parce qu'évidemment, la collection de la Pléiade, son nom ne vient pas des poètes de la Pléiade, mais de la Pléiade russe qui se réunissait autour de Pouchkine. Le fondateur de la Pléiade est d'origine russe, il faut le rappeler. Au-delà de ça, c'était pour nous très intéressant de faire ce volume original, parce que nous n'avons pas beaucoup de volumes collectifs, qui est à la fois une anthologie de poésie, mais aussi la chronique d'une époque, la chronique du règne d'Henri II, sous l'angle culturel, littéraire, poétique et aussi politique.
Pourquoi avez-vous souhaité présenter cette Pléiade ici, à la Cité de la Langue ?
Alors, écoutez, parce qu'au fond, ce que l'ordonnance de Villers-Cotterêts a réalisé pour la langue française juridique et administrative, les poètes de la Pléiade l'ont réalisé pour la langue française littéraire. C'est vraiment la même démarche, c'est-à-dire enrichir la langue, l'imposer comme la langue de toute une nation, de tout un pays, et faire en sorte que elle ne soit pas pauvre comme, à leur avis, elle pouvait l'être dans les siècles précédents, mais enrichie de tous les apports. Et on redécouvre à ce moment-là la littérature grecque, Lycophron, Sappho. Donc il y a véritablement une volonté d'enrichissement de la langue. Et au fond, c'est l'image que donne Villers-Cotterêts également. Donc, voilà.
Bonjour, moi je suis libraire à la FNAC des Ternes. Je m'occupe du rayon littérature et particulièrement de la collection de la Pléiade. Je suis Christine Horton, voilà, et ça fait 30 ans que je suis libraire.
Vous nous avez montré tout à l'heure un vinyle de votre collection qui a été enregistré, je crois, en 1961 par Gallimard. Est-ce que vous pourriez le présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Bien volontiers. Donc, c'est le volume offert en 1961 à l'occasion de la quinzaine de la Pléiade, qui s'appelle « Les poètes du XVIe siècle, anthologie sonore de la Pléiade », avec des lectures, entre autres, de Maria Cazares.
Et comment ce vinyle, qui est très rare, est tombé entre vos mains ?
Eh bien, en fait, j'étais en classe de seconde. Mon père n'était plus à la maison, mais par contre il y avait toutes ses affaires et tout, et j'ai étudié avec une super prof qui nous avait enseigné Clément Marot, et je suis allée vers ce disque et je l'ai soustrait et je me le suis approprié, voilà.
Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Ah, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux.
Ce Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai sur l'île de Porquerolles dans le sud de la France pour visiter la Villa Carmignac. Et merci à Marceau Vassy pour la prise de son.
Et merci à vous, Marie Sorbier.